Laudetur Jesus Christus.
L'Inde a dépassé ce matin la barre des 6 millions de cas de contamination au coronavirus. Le pays enregistre chaque jour près de 90 000 nouveaux cas et s'apprête à devenir l'épicentre de l'épidémie. Nous retrouverons notre correspondant à New Delhi dès le début de ce journal. Les révélations choquent du New York Times. Aux États-Unis, le journal publie un article sur les déclarations d'impôts que le président américain se refuse de rendre publiques, contrairement à ses prédécesseurs. Et pour cause, selon le journal, le milliardaire aurait payé 750 euros de taxes l'année de son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron a honte pour les dirigeants libanais incapables de renoncer leurs prérogatives pour former un gouvernement. Lors d'une conférence de presse, le président français a fustigé hier leur trahison. Et puis enfin, les combats se poursuivent ce matin. Dans le Nagorno-Karabakh, une région du Caucase que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis des décennies, le pape a prié hier pour le retour de la paix. Il encourage les deux parties à déposer les armes.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. La pandémie de Covid-19 aurait tué depuis son apparition il y a 9 mois en Chine plus d'un million de personnes à travers le monde. Un chiffre qui doublera probablement, annonce pessimiste ce matin l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire que les courbes de contamination repartent à la hausse en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Inde, pays qui compte près de 100 000 décès liés au virus. Entre 80 et 90 000 nouveaux cas d'infectés sont enregistrés chaque jour. Plus de 6 millions d'Indiens auraient été contaminés. À New Delhi, lit la correspondance d'Emmanuel Derville.
Voilà 7 mois que l'épidémie a commencé en Inde et la population ne voit toujours pas le haut de la première vague. Le pays devrait dépasser les États-Unis en nombre de cas vers la mi-octobre et dénombre 95 000 morts. Pourtant, les Indiens commencent à sortir de chez eux, le port du masque est de moins en moins respecté. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi minimise la situation et défend son action à travers 2 indicateurs. Il martèle que rapporté à une population de 1,3 milliard d'habitants, le pourcentage de malades et de morts est moins élevé qu'en Occident. Il vante aussi la montée en puissance des tests à près d'un million par jour. Surtout, les autorités comptent sur un vaccin pour remédier à la crise. Le ministre de la Santé répète depuis 3 semaines qu'un antidote sera disponible en début d'année prochaine, alors que les tests, toujours en cours, laissent planer une incertitude. À croire que la résignation a gagné le sommet de l'État. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Et un point sur les vaccins. 5 vaccins, 3 occidentaux et 2 chinois sont en phase 3 de tests actuellement. Un vaccin candidat russe a par ailleurs donné des résultats préliminaires encourageants, mais ces recherches ne peuvent pas pour l'instant prendre le virus de vitesse. On évoquait l'Europe ce matin. L'évolution de la pandémie est jugée très inquiétante par le gouvernement d'Angela Merkel en Allemagne. Devant les membres de son parti, la chancelière s'est faite alarmiste. À ce rythme, nous aurons 19 000 cas par jour et plus de 1000, leur a-t-elle dit. En Grèce, le premier bateau de croisière à accoster dans le pays depuis le confinement est arrivé ce matin dans les Cyclades avec 12 de membres d'équipage testés positifs. Le bateau avait à son bord 922 passagers. La Grèce, où l'on apprenait hier le premier décès dans un camp de rétention pour migrants. Et puis tandis que l'Europe s'inquiète en Australie, Melbourne en a fini aujourd'hui avec 2 mois de couvre-feu nocturne. Les chantiers ont repris, les crèches ont rouvert et les cérémonies religieuses sont désormais autorisées pour un public restreint. Hier, seulement 5 nouveaux cas ont été répertoriés dans l'état du Victoria. Aux États-Unis, c'est un scoop du New York Times qui fait grand bruit ce matin à moins de 5 semaines de l'élection présidentielle. Le quotidien a fait paraître une enquête révélant que Donald Trump n'aurait payé que 1500 dollars d'impôts fédéraux depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le journal révèle par ailleurs les déboires financiers du président milliardaire. Olivier Bonnel.
C'est une somme qui paraît dérisoire, 750 dollars déboursés. Le président américain, qui avait toujours refusé de transmettre au grand public ses fiches d'impôts comme le veut la tradition, se retrouve dans la tempête déclenché par le grand quotidien américain. Au-delà de cette somme, le New York Times révèle que le milliardaire n'a payé aucun impôt pendant 10 des 15 dernières années. Rien d'illégal pour l'instant, semble-t-il, mais une raison principale à cela, si le président a échappé à l'impôt, c'est en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. Cette enquête est donc une épine dans le pied pour Donald Trump car elle le présente comme un piètre gestionnaire. Ses golfs et ses hôtels perdent de l'argent. Selon le New York Times, il devrait rembourser à des créanciers pas moins de 421 millions de dollars. L'enquête révèle aussi un contentieux avec le fisc américain sur une somme de 73 millions de dollars. Des révélations qui sortent quelques heures seulement avant son débat très attendu face à son rival démocrate Joe Biden, qui pourrait s'en servir. L'équipe de campagne du démocrate n'a d'ailleurs pas perdu de temps et commercialise déjà des autocollants à $7,50 où l'on peut lire « Je paye plus d'impôts sur le revenu que Donald Trump ».
Olivier Bonnel et Piotr, revers pour Donald Trump. Un juge a à nouveau bloqué hier la suspension de l'application chinoise TikTok, suspension qui avait été ordonnée par l'administration Trump au nom de la sécurité nationale. Sur la crise libanaise, Emmanuel Macron ne mâche pas ses mots lors d'une conférence de presse au ton particulièrement dur hier soir. Le président français a déclaré avoir honte pour les dirigeants libanais après l'échec de la formation d'un nouveau gouvernement. Évoquant une nouvelle fois le risque de guerre civile au Liban, le chef de l'État français a cependant assuré que son initiative de sauvetage lancée le 1er septembre dernier à Beyrouth restait sur la table. La correspondance de Paul Ralifé.
Les dirigeants libanais sont restés silencieux après les vifs reproches que leur a adressés Emmanuel Macron, qui les a accusés de trahison collective et de ne pas avoir respecté l'engagement pris devant la France et la communauté internationale de faciliter la formation d'un gouvernement dans un délai de 15 jours. Mais les partisans des formations chiites, notamment le Hezbollah, à qui le président français a fait assumer la grande part de responsabilité dans le blocage, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Macron, respectez vos limites » a été partagé plus de 30 000 fois en 3 heures en réponse à Emmanuel Macron qui a dit que le Hezbollah ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Les internautes ont rejeté ce qu'ils ont appelé les menaces et les ultimatums du chef de l'État français qui a donné un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines aux dirigeants libanais pour qu'ils s'entendent sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les milieux du Hezbollah ont regretté la mauvaise gestion par la France de sa propre initiative et ont souligné que le président français s'est empêtré dans les détails de la politique libanaise au détriment d'une vision plus globale et plus stratégique. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Le président français qui effectue une visite en Lituanie ce lundi, les autorités de Vilnius qui ont accueilli la principale opposante au régime d'Alexandre Loukachenko au Bélarus pourront compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. Ce dernier a dénoncé hier le pouvoir autoritaire de l'homme qui gouverne depuis 1994 à Minsk. Il est clair qu'il doit partir, expliquait-il dans les colonnes du journal du dimanche. Hier, quelques 100 000 personnes ont à nouveau manifesté à Minsk. Encore 350 personnes ont été arrêtées ce week-end au Bélarus. Les combats se poursuivent dans le Caucase ce matin, 30 ans après une guerre qui fit quelques 30 000 morts au Nagorno-Karabakh. Le feu des armes a repris, un embrasement qui a eu lieu hier et fait plusieurs dizaines de morts devant les fidèles réunis place Saint-Pierre. Le pape François a ainsi demandé aux parties prenantes de poser un geste de bonne volonté et de fraternité, de renoncer aux armes pour dialoguer et négocier. L'embrasement a réveillé en effet les inquiétudes de la communauté internationale. Marine Henriot.
Tout d'abord, c'est la Russie qui a réagi. Voisine de l'Azerbaïdjan et alliée des deux pays, les combats doivent cesser et être remplacés par la diplomatie, vient de déclarer le Kremlin, qui se dit très préoccupé par la situation. Les Nations Unies, la France et Washington ont elles aussi réclamé une fin des affrontements qui pourtant se poursuivaient ce lundi dans cette région caucasienne du Haut-Karabakh. Au moins 40 personnes ont été tuées, des soldats arméniens et des civils des deux côtés. On ne connaît pas pour l'instant les pertes militaires de l'Azerbaïdjan, mais le bilan pourrait être très lourd. Les deux pays affirment avoir tué des centaines de soldats, 550 du côté de Bakou, plus de 200 pour Erevan. Ces violences sont les plus mortelles depuis 2016 et l'on peut craindre une internationalisation du conflit. L'Arménie accusait ce matin la Turquie d'envoyer des hommes pour soutenir l'Azerbaïdjan, des propos réfutés par ce dernier. Les combats ont commencé ce week-end dans le Haut-Karabakh, une zone disputée par les deux pays depuis 1921 et à l'origine d'une guerre en 1991. Chacun assure avoir pris les armes pour répondre aux provocations du camp adverse.
Marine Henriot et cette réaction de l'Union européenne il y a quelques instants. L'UE a jugé à son tour les interférences extérieures inacceptables concernant le Nagorno-Karabakh. En Turquie, le parquet d'Istanbul a inculpé 6 nouveaux Saoudiens par contumace ce matin. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat et le démembrement du journaliste Ramal Khashoggi, le dissident qui a été tué en 2018 au consulat saoudien à Istanbul. 20 autres Saoudiens, dont 2 proches du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, ont déjà été inculpés par les autorités turques. Au Vatican, enfin, le souverain pontife a reçu et remercié ce matin les dirigeants et agents de l'inspectorat de la sécurité publique italienne délégués auprès du Vatican pour leur service quotidien effectué de manière remarquable avec compétence et passion, dit le pape, l'institution qui fête cette année ses 75 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient ce soir à 18h. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticannews.va. Excellente journée.